Eh bien, on va commencer aujourd'hui cette chronique par une charade. Mon premier a une bonne tête dont la silhouette orne le balisage des contours du parc national des Pyrénées. Mon deuxième a la patte sûre et ne connaît pas le vertige. Mon troisième s'appelle Pitou jusqu'à son premier anniversaire. Et mon tout est un animal bien sympathique. Son nom, Rupicapra pyrénaïca, traduisait lizard des Pyrénées. Alors cette nouvelle chronique, je le disais, lui est consacrée aujourd'hui. Et pour évoquer cette espèce emblématique de notre massif, je suis en compagnie de Franck Reisdorfer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes technicien patrimoine du parc national des Pyrénées. Alors pour commencer, on va tenter de décrire cet isard. Peut-être que certains auditeurs qui n'ont pas la chance de parcourir nos montagnes ne le connaissent pas. Alors d'abord, à quoi ressemble-t-il?
Eh bien, l'isard, pour ceux qui regardent un peu la télé, ça va être l'antilope des Pyrénées. Son cousin alpin est bien sûr plus connu, le chamois. C'est un animal de taille moyenne, à peine un peu plus gros qu'un chevreuil. Un pelage bien fourni, avec des tons qui vont du blanc au beige au marron, presque noir, et une magnifique écharpe qui le caractérise. Voilà. Il a une paire de cornes recourbées vers l'arrière, très pointues, qui grandit au fur et à mesure de son âge, et qui nous permettent d'ailleurs de déterminer son âge. Voilà.
Elles permettent aussi de différencier, je crois, mâles et femelles.
Voilà, l'orientation des pointes des cornes n'est pas tout à fait la même entre les mâles et les femelles, ce qui permet, quand on est relativement près, d'identifier les mâles et les femelles. Voilà.
Alors, je le disais, c'est un peu l'animal emblématique du parc national. Où le trouve-t-on? Comment se répartit-il dans le parc?
Alors oui, le terme d'emblématique est tout à fait approprié, puisque c'est un des premiers animaux qui ont été réellement suivis par les gardes du parc dès la création du parc, et c'est également un des animaux qui ont motivé la création du parc, en fait, puisqu'on était à des niveaux de population assez bas à l'époque. L'intérêt de cet animal, on va dire, pour le touriste lambda, c'est que c'est un animal qui est facilement visible, on va dire, puisqu'il se répartit sur la quasi-totalité de la zone cœur du parc et également en aire d'adhésion, c'est-à-dire sur les périmètres proches du parc. Il occupe à peu près toutes les altitudes à partir de 1000 mètres et en remontant jusqu'au plus haut sommet.
Alors, vous le disiez, le parc national a été créé, alors je le rappelle, en 1967, en partie pour protéger cette espèce. Je crois qu'il y a eu une histoire un peu mouvementée.
Et c'est-à-dire que il y a quelques années de ça, on va dire, le plan de chasse n'existait pas, et comme il s'agissait d'une ressource quand même prioritaire pour les montagnards, il était chassé et plus que chassé. On peut même parler de braconnage. Et les effectifs sont tombés à un niveau très très bas, ce qui a amené quand même certains montagnards à se poser des questions. La première étape, ça a été vers les années 1950 avec la création de deux réserves en Ossau et sur le Péguer, pour essayer de freiner un peu la chute des effectifs. Et cette première étape a été un succès et a été prolongée justement par la mise en place du parc national des Pyrénées. Voilà. Et qui a permis une protection, on va dire, intégrale d'une partie de la population d'Isard.
Alors, on a bien compris, le premier prédateur dans l'histoire, ça a été l'homme. Le chasseur, les comportements ont changé. Vous disiez qu'il y avait des plans de chasse. Le parc national a été créé dans lequel toute chasse est bien évidemment interdite. Y a-t-il d'autres prédateurs? Est-ce que l'isard a des raisons de se méfier d'autres animaux?
Alors, ça reste très limité, mais effectivement, il y a quand même des animaux qui peuvent prédater l'isard, notamment, évidemment, quand il est tout petit. Voilà, les premiers jours de la vie de l'isard sont assez mouvementés. On peut, de façon très rare, avoir des prédations par des renards, ce qui sous-entend que le pitou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était déjà en mauvaise posture. Par contre, c'est plus régulièrement une proie des aigles royaux. Voilà, qui peuvent, en cas de besoin, s'attaquer à un pitou.
Alors, on le disait, c'est l'animal emblématique des Pyrénées. Il est facile de l'observer et de bien le voir. D'ailleurs, c'est toujours aussi magique, même quand on a l'habitude de se promener en montagne. Hop, on s'arrête parce qu'on voit un isard. Quel est globalement son comportement?
Alors, le comportement de l'isard est très variable selon son environnement et les pressions qu'il subit, et selon la présence humaine ou pas. Par exemple, un isard qui est chassé n'aura pas du tout le même comportement qu'un isard qui ne l'est pas. Le cas le plus flagrant, c'est le cas de la population de Cauterets qui, justement, bénéficie d'une protection intégrale, puisque c'est la seule population dont le domaine vital, finalement, est intégralement inclus dans la zone de protection et donc qui n'est absolument pas visé par la chasse. Dans les autres secteurs du parc, le domaine vital est souvent à cheval entre la zone cœur et la zone périphérique, et donc selon la période de l'année, les isards sont chassés ou pas. Donc on a déjà cette première évolution. Et dans les zones où le domaine vital est intégralement inclus dans une zone chassée, on a un comportement qui est encore différent, avec notamment une distance de fuite qui est plus importante. Et quand je vous parlais de la période et de l'état, on va dire, de l'animal, il est évident qu'une femelle qui est suitée, qui vient de mettre bas, sera beaucoup plus craintive et méfiante qu'un mâle qui est seul ou en période de rut et qui est occupé à autre chose.
Comment l'isard s'adapte-t-il au froid? Comment trouve-t-il sa nourriture en hiver?
Alors on remarque, grâce à des études qui ont été menées, en particulier par Jean-Paul Crampe sur la population de Cauterets, on a pu mettre en évidence une utilisation bien spécifique du territoire en fonction des individus ou des groupes d'individus. Une utilisation qui est saisonnière. Et en particulier, on remarque que la plupart des individus se regroupent en période hivernale sur les parties les plus basses, les plus protégées. Et ce comportement va évoluer en fonction de la saison et en fonction du sexe. On va avoir une partie des femelles qui va rester sur ces zones d'hivernage qu'elles vont occuper toute l'année. D'autres femelles vont émigrer jusqu'à presque une dizaine de kilomètres de cet endroit-là pour la partie estivale. Et les mâles, quant à eux, ne vont faire des groupes qu'une partie de l'année et le plus souvent sont isolés sur des tout petits territoires qu'ils vont défendre. Et certains vont même rester sur des territoires de quelques centaines de mètres carrés toute l'année. Voilà, ça va permettre une occupation du territoire qui est optimisée et une utilisation de la ressource optimisée également. Et pour ce qui est de la période la plus critique, qui est évidemment la période hivernale, tout va dépendre du taux d'enneigement. Ce niveau d'enneigement sera directement responsable du taux de survie des petits.
Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de l'état de la population? Alors, je crois que le parc organise régulièrement des opérations de suivi et de comptage.
Alors, le suivi de l'isard, effectivement, c'est une activité historique du parc et des gardes-moniteurs. Mais par contre, ce suivi a évolué au cours des années. On est arrivé aux années 2000, à un maximum de 6500 et quelques isards, qui était vraiment l'apogée, on va dire, de la population du parc. Et depuis, on a des fluctuations plus ou moins importantes selon les conditions climatiques, les maladies qui peuvent passer, le comportement même de l'isard, quoi. Et la dernière évolution en date, c'est donc depuis l'année dernière, depuis 2016, où on a mis de côté le fameux comptage flash, qui était historique au parc, pour passer à ce qu'on appelle l'IPS. Donc l'IPS, qui veut dire indice de taille de population, alors qui n'est plus du tout ciblé vers l'exhaustivité du comptage, mais vraiment vers l'évaluation de tendance. Puisque ce protocole-là, lui, ne vise qu'à repérer des évolutions de plus ou moins 10% de la population sur un pas de temps de 3 ans. Donc comme je vous l'ai dit, on a commencé en 2016, on commencera à avoir vraiment des résultats exploitables, donc en fin 2018.
Alors au-delà de ces opérations de suivi et de comptage, y a-t-il des programmes spécifiques qui sont consacrés à l'isard au sein du parc?
Alors il y a eu des programmes bien spécifiques et de portée internationale, on va dire, puisque sur la population de Cauterets, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a la particularité de vivre en évolution qu'on va considérer comme naturelle, puisqu'elle n'est pas du tout soumise à la chasse. Donc on a eu plusieurs études bien spécifiques. Il y a eu une étude qui a démarré en 1987, qui a duré 25 ans, donc toujours mis en place par Jean-Paul Crampe, qui était une étude des cadavres récupérés. Il a récupéré et étudié 1069 cadavres. C'est pas rien, on commence à avoir des chiffres qui parlent déjà.
On peut parler d'échantillons représentatifs, c'est d'actualité.
Je pense que c'est clairement représentatif. Voilà, d'autant qu'on avait un ratio très équilibré, hein, puisqu'on a eu autant de mâles que de femelles. Mais par contre, cette étude-là a permis de mettre en évidence des données qu'on n'avait pas du tout. sur la longévité moyenne et maximale de ces animaux, puisque là où elle est soumise à la chasse, c'est quand même difficile d'avoir quelque chose de fiable. Et là, donc, on a pu voir que la longévité était quand même relativement équilibrée entre les mâles et les femelles, puisque les femelles avaient une longévité moyenne de 11 ans et pas tout à fait 12 ans pour les mâles, et des longévités maximales, là aussi assez équivalentes, puisqu'on arrive à 24 ans pour des femelles et 20 ans pour des mâles. Et on a eu également une autre étude qui était une étude de marquage. Donc toujours pareil sur cette population de Cotteray. En 1993, ils ont démarré une opération de marquage. Ça a duré 20 ans. Il y a eu 547 individus de marqués. Alors, c'est les fameux isards que vous pourrez rencontrer quand vous circulez dans Cotteray, puisqu'ils sont certains sont encore marqués avec des colliers, des boucles d'oreilles. Alors effectivement, ça fait un peu bariolé. Ça peut prêter à discussion. N'empêche que de ces marquages sont sorties des données absolument importantes et cruciales pour la compréhension du fonctionnement de cette population. Voilà, donc les individus marqués, ça a été 269 femelles et 278 mâles. Et l'autre intérêt au travers de ces marquages, c'est qu'on a 104 femelles qui ont pu être marquées et suivies jusqu'à leur mort. Donc, ça nous a permis d'avoir vraiment une vision très globale de la vie de ces animaux. Et de pouvoir les comparer entre eux, de comparer ce que je disais tout à l'heure, l'occupation du territoire, l'efficacité de reproduction des animaux, les taux de survie, les stratégies d'occupation du milieu, les réactions aux prédations ou aux pressions. Donc voilà, des études vraiment importantes et uniques en France, pour le coup, puisque des isards, il n'y en a pas partout.
Dernière question, votre dernière rencontre avec un isard, ou des isards, une harde, vous nous la racontez?
Je ne vais pas vous parler de ma dernière rencontre, je vous parlerai plutôt de la première rencontre en tant qu'agent du parc. C'était mon premier jour de terrain et c'était le jour de la naissance d'un des premiers cabris de l'année. Donc voilà, ça c'est peut-être plus ça qui m'a marqué. Le premier cabri de la saison de l'année dernière, tout frais sorti et que sa mère était en train de lécher.
Franck Reisdorfer, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes technicien patrimoine du Parc national des Pyrénées et qu'avec vous, nous évoquions l'isard des Pyrénées, que nous invitons nos auditeurs à venir découvrir au sein des six très belles vallées du Parc national. Merci.
Ben, merci à vous et juste pour info, les naissances, c'est maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut venir pour les voir.
Message transmis.